entame une conversation avec Laurence à propos de ce qu'elle vient de me raconter.
Il me racontait avec un petit peu de sarcasme ce genre de film, parce que quelque part, on ne se reconnaît plus dans ces histoires. Il y a un pas supplémentaire, même si les problèmes, comme tu dis, existent toujours, ils sont éternels, mais peut-être qu'on ne les montrerait plus de cette façon-là.
Oui, non, c'est ça, je pense, je ne sais pas.
C'est un peu bizarre d'avoir... C'est vrai, c'est drôle de se moquer de nous-mêmes, ce qui a été une force... parce qu'un film comme ça, en 79, on y accordait énormément d'importance.
On était dedans, on était complètement dedans. Et là, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de le raconter avec un peu d'ironie. Et après coup, je me dis, mais pourquoi je suis ironique? C'est comme si j'annihilais ou je niais ce qu'on avait vécu il y a 12 ans. Et pourquoi? Je veux dire, c'est pas parce qu'on évolue et qu'on change qu'on doit être sarcastique ou... plaisanter sur ce qu'on a pris très au sérieux il y a 12 ans.
Mais peut-être qu'il y a 12 ans, on avait besoin de montrer les choses de façon plus caricaturale, parce que c'était un problème qui n'était tellement pas reconnu, ce partage des tâches, cette indépendance de chacun, et le fait qu'on voulait exister dans notre profession, même dans notre famille, tout en ayant des enfants, etc. Et qu'aujourd'hui, on le montrait certainement plus subtilement, ces images un peu grossières où tout à coup, comme tu dis, les problèmes de la femme prennent tellement d'importance. Aujourd'hui, on le montrait de façon un peu plus subtile, plus deuxième degré, comme ça, non?
Oui, et puis moi, ça me fait penser à ce qu'a dit une journaliste il y a, je sais pas, il y a peut-être un an ou six mois en France, et qui dit que maintenant, on a fait tellement de pas en avant qu'en fin de compte, on n'en peut plus, on est complètement essoufflé parce qu'on travaille, on s'occupe des gosses, on fait tout, on fait les courses, et on voudrait bien... on ne sait plus trop quoi faire avec ça aussi. On a tellement changé notre vie qu'il y a un essoufflement et un stress. Et j'en ai même entendu qui disaient « Oh, j'aimerais bien être de nouveau femme au foyer !»
Mais là, je crois qu'il faut qu'elles essayent. Laurence a voulu discuter avec... Louise Marlowe, qui est l'héroïne comédienne du film de Mireille Dansereau, L'Arrache-Cœur, justement de cette sensation de un peu caricatural, un peu particulier pour aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un film qui est trop ancien, trop vieux pour le remontrer aujourd'hui, après tous les pas qu'ont franchi les femmes dans leur remise en cause du rôle qu'elles avaient, de la discussion de ce qu'elles souhaitaient. Alors tout de suite, un entretien entre Louise Marlowe et Laurence Brun à Créteil. 1993.
Oui, Louise Marlowe, alors on vient de voir L'Arrache-Cœur.
Oui.
Ça m'a beaucoup intéressée parce que ce film, malgré... Je trouve que ce film date un peu. Ça m'a amusée de vous entendre dire ça dans le débat. Est-ce que vous pourriez me dire...
Je dis comme le temps passe, oui. Quand le débat a commencé, en ce sens que... D'abord, il y avait 12 ans que je n'avais pas vu ce film, puisqu'on l'a sorti il y a 12 ans. Et j'ai été frappée, bien sûr, quand on regarde un film, on est une actrice et qu'on vient de le tourner, on est un peu... on n'a pas le recul qu'il faut pour le regarder comme si c'était une étrangère qui jouait, alors que là, vraiment, je me regardais comme si j'étais une autre. Et vous dites que le film date, mais quand il est sorti, le fait de poser le problème de la femme qui a été hantée par le cancer de sa mère, maintenant on sait aujourd'hui que bien sûr c'est génétique, qui veut travailler, qui veut créer, qui est mariée, qui a un enfant, qui confronte la vie d'une mère avec la vie d'une épouse et une vie professionnelle et tout ça. C'était assez révolutionnaire. C'était pour l'époque quelque chose de très... C'était, je crois, le deuxième long métrage de Mireille Dansereau. Donc, il y a certainement un manque de maturité en tant que cinéaste, mais je pense que le sujet est toujours très actuel et il était carrément révolutionnaire à l'époque.
Oui, c'est vrai. Et moi, je dis ça.
Et aussi même de parler du fait que le mari est étranger. Qu'il arrive d'Afrique du Nord ou quelque chose comme ça, ça posait une dimension de plus. Et bien sûr, cette relation mère-fille qui n'en aura jamais fini, qu'on n'épuisera jamais, quoi.
Je ne disais pas ça en fonction du contenu, parce que ce contenu, il est toujours important,
oui,
c'est sûr. Je disais ça...
Au niveau de la maîtrise cinématographique.
Forme, je pense. Forme.
Oui,
forme.
Oui.
Je ne pense pas qu'aujourd'hui... ferait des plans aussi longs sur les visages. Je pense que le découpage serait plus rapide, plus rythmé. Enfin, c'est ça que je voulais dire. Enfin, moi, personnellement. Hein.
Oui. Enfin, moi, avec le recul, j'ai trouvé justement qu'il y avait des scènes qui nous paraissaient au tournage très faibles, comme cette scène où elle va dîner chez ses parents et où il se passe rien du tout et c'est très lent et on ne sait pas quoi se dire. Et ça, j'ai trouvé ça très, très moderne. J'ai trouvé que cette espèce de temps qu'on prenait pour montrer qu'il ne se passe rien était assez moderne. Ça m'a frappée, ça. Et je vous dis, je pense que c'est davantage une question de maîtrise de son art, d'une très jeune réalisatrice,
de l'écriture
cinématographique qui n'était pas tout à fait maîtrisée. Mais ce film m'a complètement charmée, et indépendamment que j'y sois ou que j'y sois pas.
Mis à part le fait que j'ai trouvé qu'il datait au point de vue écriture, je trouve que...
Le jeu, je me disais, je regardais comme si c'était une autre, et je me disais, je le ferais aujourd'hui, je le ferais exactement de la même façon.
Moi, en tant qu'actrice, j'ai trouvé que vous étiez parfaite, parce que vous rendiez très bien les sentiments, le malaise, etc.
Et je trouve qu'elle a cerné d'une façon magnifique toute cette espèce d'ambiguïté des sentiments, cette confusion des sentiments qui habite cette femme et qui est complètement torturée entre ce qu'on attend d'elle et ses amours et de mener à terme sa vie de mère, etc. Je trouve qu'elle a magnifiquement exacerbé même ce personnage à un point où elle en devient presque irritante. Je regardais le personnage et je me disais, là, elle est limite. À chaque fois, elle disait à sa mère ou à son mari, et moi là-dedans, et on a l'impression qu'il n'y en a que pour elle. Mais souvent, je veux dire, si on se reporte à cette période-là de la vie d'une femme où elle aborde toutes ces questions en même temps, c'est vrai qu'elle semble toujours manquer de temps pour elle et elle croit qu'on ne lui en accorde pas. Mais ça, elle l'a magnifiquement traité, au point où le personnage, qui est pourtant attachant, à un certain moment, on dit ça va. Là, on est
ça suffit,
presque irrité. Oui. On a envie que quelqu'un lui dise ça suffit.
Ça m'amuse que vous disiez ça parce que c'est ce que j'ai ressenti.
Mais,
je pense que nous avons ressenti ça parce que nous avons 10 ans de plus.
Oui, probablement, mais c'est je pense, très habile de sa part d'aller jusque-là.
Oui. Et par rapport à ce que vous avez exprimé il y a 12 ans, est-ce qu'aujourd'hui, 12 ans après, vous vous dites, parce que j'ai entendu que vous disiez dans le débat, nous nous sentions proches toutes les deux parce que nous avions les mêmes problèmes,
éduquer
les enfants, etc. Donc 12 ans après, moi aussi j'avais, disons que personnellement j'avais aussi un enfant petit à cette époque-là, nous avons 12 ans de plus, est-ce que nous avons résolu certains problèmes?
Eh bien, je croyais qu'on avait finalement changé très, très peu de choses, mais ma fille a 16 ans aujourd'hui, et je pense que nous avons fait une génération de femmes qui a quand même changé. Ces jeunes femmes n'abordent pas du tout la vie de la même façon. Ma mère ne travaillait pas, n'avait pas de métier, restait à la maison, etc. Elles ont eu d'autres modèles et je me rends compte que c'est impensable pour elles aujourd'hui de penser qu'elles pourraient se marier, avoir des enfants et rester à la maison. Je veux dire, elle peut à peine croire qu'une génération avant elle, il y en avait beaucoup qui faisaient ça. Et le rapport aux garçons n'est pas du tout le même. Je pense qu'elle s'affirme, je pense qu'il y a de l'espoir.
Donc, vous devriez rejouer aujourd'hui...
Avec ma fille.
dans un rôle de couple, avec un mari et une fille,
oui.
Je pense que vous n'auriez pas la même attitude. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, ben, ce ne serait plus du tout le même sujet.
Chose, hein.
Non.
Vous n'auriez pas les mêmes états d'âme.
Non.
Je pense qu'il y a des choses que vous avez dû résoudre.
Oui, il y a des choses qui sont résolues, bien sûr.
C'est quand même heureux de
avec le
de
temps.
Dire.
Oui, oui.
Et je pense qu'une femme, quel âge vous aviez à l'époque?
J'avais 30 ans.
30 ans à peu près.
Oui.
Bon, une femme de 30 ans aujourd'hui, le film ne serait pas comme ça.
Ah non, pas du tout.
Il
ne serait pas réalisé de la même façon, on n'en parlerait plus. C'est donc que les choses ont changé. C'est donc que ce genre de film a quand même ouvert des portes et qu'on a tout ouvert.
Voilà,
des
donc on est d'accord. En fait.
Oui.
Oui, l'autre film m'a aussi intéressé. Vous apparaissez juste un petit instant. Enfin, il y a une scène de l'arrache-cœur qui se retrouve.
Ah oui, c'est ça.
Mais
oui.
Sinon, vous n'avez pas participé plus...
À d'autres films de Mireille Dansereau?
Non.
Non, elle n'a pas beaucoup tourné d'ailleurs.
Non.
mais elle a plusieurs projets et on en a un ensemble effectivement. Moi, j'ai fait plutôt des films qui ont été vus à Créteil. J'ai fait des films de Léa Paul, La femme de l'hôtel et Anne Trister.
La sorcière est de retour et la sorcière, c'est Tina Turner. Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Radio Zone Onde Femme 93.8, comme tous les mercredis jusqu'à 18h30 en direct. Vous nous retrouvez à 23h et à 11h jeudi matin, si vous n'avez pas entendu le début de ce rapport, en quelque sorte, du 15e Festival International de Créteil et du Val-de-Marne, film de femmes. Où Laurence Brun est allée beaucoup pour nous voir ce qui s'y passe et rencontrer des personnalités comme la réalisatrice canadienne Mireille Dansereau que nous venons d'entendre. Mais maintenant, eh bien, je vais vous parler de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu le dernier week-end, c'est-à-dire le week-end de clôture du festival. C'est la fête, bien sûr, le dimanche, c'est la musique, comme vous avez entendu l'introduction pour celles d'entre vous qui étaient déjà là à 17h. Et c'est là que l'on attend avec excitation le résultat des prix attribués par le jury, par le public, par l'Association des femmes journalistes et par diverses autres personnes qui attribuent ou associations qui attribuent des prix aux réalisatrices. Alors, cette année, tout le monde se demandait quel allait être le prix du meilleur long-métrage fiction au niveau du jury, au niveau du public. Il y avait des bruits qui couraient, mais tout le monde était très inquiet. Et puis, Tout le monde a été terriblement satisfait, puisque c'est le film « Parle, il fait si noir » réalisé par la réalisatrice Susan Austin, suédoise, qui a reçu, tenez-vous bien, et le prix du jury pour le meilleur long-métrage fiction, et le prix du public. Donc, unanimité totale autour du film de Susan Austin. Et tout de suite, à la sortie de cette cérémonie, eh bien, nous avons rencontré une comédienne qui faisait partie du jury et elle nous explique comment ça se fait qu'il y a une telle unanimité autour de ce film.
Vous êtes membre du jury, apparemment la décision a été prise absolument rapidement sur le film de Susan Austin.
Tout de suite, c'est une décision évidente. Tout le monde, les 7 membres du jury... d'une même voix, on donnait son film comme le Grand Prix.
Alors pourquoi sans discussion, vous pouvez nous dire quels sont les arguments de force de ce film ?
Je crois que c'est le film qui nous a le plus marqué. C'est d'abord un vrai film de cinéma avec en plus un vrai propos. Et c'est un film très très dans son actualité et qui ne prend pas parti. C'est un sujet qui était très difficile à traiter parce que très vite on pouvait prendre parti sur le sujet. Et là il ne prend pas parti. Il est une histoire de cinéma, une histoire de réalité sans parti pris déplacé. Et c'est très fort.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est un peu un virage de Créteil de primer un film, bien sûr réalisé par une femme, Susan Austin, mais qui n'évoque pas des problèmes de femmes ?
Je ne suis pas à même de vous répondre. C'est la première fois que je viens à Créteil. Je viens directement en tant que jury. Je trouve que les films présentés dans la sélection cette année étaient tous très différents. Ils étaient plus marqués par le fait que c'était des films de pays différents, donc avec des préoccupations différentes, plus que le fait que ce soit des films de femmes. Je ne suis pas quelqu'un qui suis habitué à voir des films faits par des femmes ou uniquement des films de femmes. Donc je les ai regardés comme des films de cinéma en faisant abstraction du fait par qui c'était fait. Je crois que là, on a primé le meilleur film. Et j'enlève deux femmes. Alors peut-être que ça ne plaît pas à Créteil, mais c'est très très courageux. Je dirais que le film qu'on a primé est un film fait par une femme qui en a. Donc je trouve que c'est très fort. C'est d'autant plus fort que ce soit une femme, parce qu'elle a eu l'audace et le courage de le faire. Mais ce n'était pas du tout notre propos de regarder ces films avec soit l'indulgence, soit le regard qu'il fallait y mettre du fait que ce soit des femmes. Ça n'a pas d'importance. Je crois qu'il ne faut pas mettre les femmes dans un ghetto.
Ce n'est pas ça que je pensais du tout, mais c'est le même que le thème du film n'était pas lié à la question des femmes.
Mais il y avait d'autres films dont le thème n'était pas lié à la question des femmes. De toute façon, les femmes sont présentes dans la vie, donc elles sont présentes dans le cinéma au même titre que les hommes. Je crois que dans le cinéma, d'une manière générale, il y a toujours à l'écran des hommes et des femmes. On tourne toujours autour du même problème.
Alors voilà, une grande unanimité autour du film « Parle, il fait si noir »,« Parle, il fait si noir », excusez-moi, de Susan Austin, femme réalisatrice suédoise. Alors, quel est le thème de ce film, puisqu'il n'évoque pas un problème lié aux femmes ? Eh bien, c'est l'histoire de Søren, un jeune néo-nazi qui s'est fait casser la figure lors d'une autre cassée de figure à un étranger, dont est témoin un personnage qui se trouve dans un train. Et le jeune Søren va monter dans le train, et pendant le trajet du retour chez lui, Jacob, qui est médecin, l'homme qui a vu la scène, va s'occuper de lui. Il le soigne tant bien que mal et il lui propose de passer pour vérifier sa blessure le lendemain à son cabinet. En l'occurrence, Jacob, médecin, est juif. Sa famille a été exterminée à Auschwitz. La confrontation avec Søren rouvre des anciennes plaies et le plonge dans un état de colère en même temps que d'angoisse. Pour Søren, les récits concernant l'Holocauste ne sont que des mensonges, mais Jacob, que cet aveuglement déconcerte, tente de comprendre le garçon et s'efforce d'exercer sur lui son influence. Bien que Søren continue d'entretenir des liens avec les néo-nazis, le doute s'empare de lui et il se met à réfléchir sur sa vision des choses. Au fin fond de lui-même, Søren est rongé par la peur et la haine. Et il commence lentement à comprendre qu'il doit affronter ses problèmes pour éviter d'être entraîné dans un cycle de violence qu'il ne pourrait plus contrôler. Alors, film magnifique s'il en est, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent si ce n'est, disons, au niveau de l'action, purement et simplement. C'est la confrontation de ces deux personnages, l'homme, le médecin, Søren, le jeune néo-nazi. Et c'est d'une force incroyable. Tout de suite, après avoir rencontré cet enthousiasme membre du jury, eh bien nous avons eu la chance de parler 3 minutes, ou presque, avec Susan Austin.
Voilà.
Impressionniste.
Hein? Susan Austin, vous êtes surprise de recevoir ce prix aujourd'hui, ici à Créteil, où vous pensiez que le fait que votre film ne traitait pas d'un thème qui concerne les femmes seulement allait peut-être être un obstacle. Je suis encouragée parce que, évidemment, il y a un sujet dans mes films qui est visible pour le public, pour les gens ici. C'est le thème de violence et de haine. C'est une question pour les femmes, pourtant, parce que nous sommes des victimes beaucoup de temps. Et je suis une personne avec une grande angoisse pour la violence. Et je cherchais le cœur de la violence avec ce film. Et bien, évidemment, il y a des gens qui comprendre. C'est un sujet très important pour nous, je crois.
Si l'on regarde la distribution de votre film, on constate que vous êtes la seule femme, disons, pièce maîtresse du film. Tous vos autres collaborateurs sont des hommes. Est-ce que c'est un hasard? Et entre autres, l'écriture, le scénario, c'est un homme.
Tous les personnages là sont les vieilles amies qui me supportaient de temps en temps, les différents. L'écrivain, par exemple, Niklas Rådström, il a fait un manuscrit sur le thème l'enfance de Hitler avec moi. C'est sur Alice Miller, le très connue psychanalyste suisse. Je collaborais avec elle, avec Niklas. Et ce film, ce n'est pas possible de faire sans les idées d'Alice Miller. Elle est une... Pour moi, elle est le plus important sous tous les gens ici dans le film. Mais tous les professionnellement, les caméras, les coupages, par exemple, le montage, sont une vieille dramaturge de moi. Ils me comprennent, simplement.
C'est ce qui est important.
Ils me couragent. Et faire ça, ils me donnent un peu de courage. Je crois que c'est nécessaire, si tu es une femme qui veut faire un film dans une industrie totalement contrôlée par les hommes, il faut que tu aies un peu de besoin et soutenance des hommes, des bons hommes, avec une perspective féministe.
Une dernière chose, il semble urgent que votre film soit montré dans les salles puisque c'est un problème d'actualité très intense.
Oui.
Vous avez un bon espoir qu'il soit distribué en Europe où ce problème se pose très fort.
Bon espoir, c'est un beau mot.
J'aimerais juste que vous disiez deux mots sur les deux acteurs qui sont extraordinaires, et très convaincants, oui. Sur le jeune et l'analyste.
Et la question est...
J'aimerais que vous disiez comment vous les avez trouvés.
Chercher et travailler très dur et collaborer avec les acteurs. Ils sont très actifs dans le procès. Et j'ai séparé tous les deux dans le procès. Et il n'y a pas avait un contact avec l'un l'autre pendant la préparation. Oui.
Parce que c'est incroyable, effectivement, surtout le jeune, comme il s'identifie à cette violence incroyable.
Il a fait un grand travail avec lui-même. C'est difficile de montrer le haine, hein, mais il existe. Chaque personne a une grande portion.
Et l'acteur qui joue le rôle de l'analyste, il est, mais on dirait qu'il est vrai, enfin qu'il est analyste lui-même. C'est absolument étonnant.
Il est mon mari. Et nous avons tourné beaucoup de films et beaucoup de pièces de théâtre. Il est metteur en scène et opéra. Il n'est pas, absolument pas, est un analyste. Absolument pas. Mais il joue bien.
En tout cas, on voulait vous dire qu'on avait beaucoup, beaucoup aimé votre film, qu'on craignait qu'il ne soit pas repéré parce qu'il ne traitait pas d'un sujet de femme. Mais on est complètement contente qu'il n'y ait pas eu cet obstacle pour que vous soyez récompensée.
Voilà. Merci, merci.
Thank you.
Alors voilà, j'espère que bien sûr ce film Parle, il fait si noir de Suzanne Austin arrivera jusqu'en Suisse et en France voisine, qu'il sera distribué et que vous pourrez le voir. Je pense qu'effectivement c'est une chose très très importante. En l'occurrence, Suzanne Austin nous racontait aussi que ce film a pu être distribué particulièrement grâce à l'action des producteurs avec plus de 20 copies dans les écoles, centres de loisirs et autres lieux communautaires réservés aux jeunes en Suède et que donc il a fait l'objet de grands débats, grandes discussions et pour elle c'était très très important d'obtenir une telle distribution, un tel débat autour de son film. Quels ont été les autres prix, rapidement pour finir cette distribution, parce qu'il y a aussi de très beaux autres films qui ont été primés. Le meilleur long métrage documentaire décerné par l'Association des femmes journalistes a été accordé à un film qui a pour titre Commune guerre, un film réalisé par une réalisatrice indienne, Deepa Dhanraj, et qui est un film magnifique qui raconte les femmes, l'attitude des femmes indiennes autour des questions du planning familial et les difficultés qu'elles ont à être bien instruites. Le film dénonce le cynisme, la corruption et la brutalité qui caractérisent les pratiques du planning familial, les stérilisations forcées, l'avortement contraint, les tests de contraceptifs nouveaux sur les femmes cobayes, etc. Et le gouvernement qui laisse entendre que le fait que les pauvres aient des enfants est la cause principale du retard de la nation et que le contrôle des naissances est la clé du problème. En l'occurrence, la force des témoignages que l'on trouve dans ce film et l'analyse des mécanismes du planning familial obligatoire font en fait de ce document quelque chose d'une première importance et c'est sûrement ce qu'a reconnu l'Association des femmes journalistes. Le prix du jury Graine de Cinéphage, c'est les ados qui voient ces films. Eh bien, il a été donné à un film réalisé par une femme islandaise, Kristin Johannesdottir, qui a pour titre Sur Terre, un film de fiction magnifique. Et puis le long métrage documentaire meilleur primé par le public a pour titre Lesbienne grâce au ciel et il a été réalisé par deux femmes algéro-françaises qui vivent aujourd'hui au Canada. Voilà, c'est les prix de cette année et tout à l'heure, dans quelques minutes, eh bien, je vous propose de retrouver Jackie Buette, la directrice du festival.